À tous un excellent mardi. Je sais pas s'il reste encore du trafic à certains endroits. Ce matin, c'était l'enfer.
Épouvantable.
L'enfer. Vous passez toutes par la même place. C'est ça le problème. Passez par d'autres places.
Oui, mais des fois, t'as pas le choix, Yann.
T'as-tu passé par le boulevard Hamel?
Ben non, je n'ai pas à passer par le boulevard Hamel. Moi, j'étais pogné sur la 40 à matin. Une heure et demie m'en venir.
T'aurais pu le faire.
J'aurais pu passer sur Hamel.
Ben, une fois que t'embarques sur Henri IV, t'en vas chercher boulevard Hamel par la suite.
Oui, c'est pas ça que je fais, moi. Là,
tu prends boulevard Hamel tout.
Non. Le plus simple, là, c'est la 40, Robert Bourassa, Le Bourgneuf.
Ouais, c'est ça.
C'est tout.
Mais t'étais dans le trafic ce matin, puis pas à peu près.
Aucun sens. Honnêtement, il y en a tous les matins, mais aujourd'hui, c'était particulièrement de la merde. Puis pour vous rassurer, en ce moment, ça roule bien quand je regarde le réseau routier. Fait que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. Mais tu vois, ce matin, je t'allais porter les boys en Beauce. Fait que je suis parti vers les entours de 5h40 à peu
près.
Puis on est arrivé là-bas, on a déjeuné, tout ça, ils sont partis. Je suis embarqué dans l'auto à 7h10. J'ai pogné le trafic, bien entendu, sur les ponts. Mais par la suite, moi, aussitôt que je suis Henri IV, je sors sur boulevard Hamel, puis j'ai filé à 40-50 km/h tout le long.
Ça a bien roulé.
Jusqu'à la station, pratiquement.
Ah, moi, je t'ai arrêté, là. J'aurais pu mettre mon char sur le parking, là.
Je sais pas comment vous faites pour tolérer ça. Des fois, j'aime mieux ne pas être dans le trafic, puis que ça aille moins vite, mettons, mais que je roule pareil.
Mais je préférais faire un long détour pour rouler aussi. Je suis un peu de même, sauf que j'ai pas beaucoup d'options. Là. 140, t'sais, moi, j'habite 140 à 45 minutes, faut que je fasse la 40. J'ai pas 8 options. Okay. Mais je sais pas. Pour ma part, on dirait que je me suis comme habituée. Je me dis que ça sert à rien. Je vais arriver anyway.
Ouais.
Puis même si je me bats, je me frustre, je klaxonne, puis je crie, j'arriverai pas plus vite.
C'est ça. Moi, je m'avoue jamais vaincu. Fait que je prends tout le temps un autre chemin. Je dis à ma blonde, puis ça fonctionne en passant. Là. Quand vous faites le retour à la maison, si vous habitez au centre-ville de Québec, passez par l'autre côté. Plutôt que tout le monde descende sur Charest, puis se dirige vers Henri IV ou vers les ponts, là, ou encore vers chez toi, vers Saint-Augustin, bien, vous avez juste à passer par-dessus la ville. Puis vous tombez en bas sur boulevard Champlain, puis vous filez tout le long jusqu'au pont de Québec. Puis après ça, ben, vous prenez soit Henri IV Nord ou Henri IV Sud.
C'est des bons trucs.
Ça y a fait sauver, des fois c'est 30 minutes qu'elle sauve.
Mais le pire, c'est qu'on est un peu niaiseux, hein, parce qu'on a nos habitudes.
On fait toute la même affaire.
C'est ça, on a nos habitudes, puis il ne faut pas déroger, tu sais, dans notre tête. Puis, mais là, ça s'est complètement dégagé. Mais je te dis, là, à l'arrivée, là, mettons, j'étais sur la 40S, là, près de Robert Bourassa, là, pour aller prendre la 15, pour prendre la sortie, là. C'était épouvantable. Tu n'avais pas juste la ligne pour prendre la sortie, tu avais comme une autre voie qui était réservée au monde qui essayait de se tasser.
Mm-hmm.
Fait qu'on était tous là comme une gang de cocombes. Personne n'avançait, personne faisait un move. C'est enrageant.
Mais passe par la 138, ça devient Wilfrid Hamel. Fait que c'est super facile de cette façon-là. Quand t'es pas capable d'avancer, c'est à 40, là.
Ouais.
T'embarques à 138, puis tu sais juste que t'as des lumières, mais ça avance super bien.
Ouais. Oui, puis non.
À peine d'y dire.
Ben non, mais je l'utilise de temps en temps, la 138, pour choix.
Tu sais, quand on dit les gens font toutes la même affaire aux mêmes heures, là.
Ah, mais je fais probablement partie de ça.
J'avais jasé
pas.
Avec un détective privé. Là, j'essaie de me rappeler son nom. Tape donc, détective privé Grande Allée, à Québec. J'ai Michel Corneau dans la tête. C'est-tu encore lui? Un gars hyper sympathique.
Oui,
c'est Michel Corneau,
détective
puis
privé.
Il me racontait que, tu sais, quand il est en planque, là, il est capable de dire précisément, après 2-3 jours, là, qu'est-ce que la personne va faire au grand complet dans toute sa journée.
Ah, on est vraiment des bébites d'habitude.
On rentre à la même heure à job, on va au même Tim Hortons. Si on va au Tim Hortons, on va au même McDo. Si on va au McDo, on fait toujours la même affaire.
Mais c'est que c'est rassurant, ça nous prend des bases, tu sais.
Ouais, je pense qu'on est sur le pilote automatique.
Probablement, tu sais. L'horreur, je sais pas toi, mais moi, là, ce que j'ai à faire, je change relativement chaque jour dans l'ordre que je le fais, mais il y a des affaires qui bougent pas. Je sais qu'à 5h15, je pars ma théière pour faire mon thé. Il y a des affaires qui sont très précises dans mon horaire. Fait que oui, effectivement, on est des bébites.
Toi, t'es la victime parfaite pour un tueur à gages.
Probablement.
Après deux jours, il connaît tes allées et venues, il connaît à l'heure que tu te lèves.
Je suis la victime parfaite pour bien des affaires.
Tu barres-tu? Ta porte, es-tu toujours barrée chez vous?
Ben là, je te dirais pas non, là.
Mais la vérité, vraie?
La vraie vérité, ouais. OK, c'est que je la barre depuis peu. Depuis peu, donc quelques mois, là. Mais chez nous, étant donné qu'on a toujours habité plus reculé, avec mon chum, je parle, on la barrait pas. C'est comme une mauvaise habitude.
Honnêtement, je sais pas comment vous faites. Je suis pas capable de me coucher.
Ah, mais la nuit, tout est barré. Quand je suis dans la maison, tout est barré. Quand je suis pas dedans, tout était ouvert.
Ah, ben c'est ça, c'est correct.
Fait qu'un moment donné. Non, mais il y a un moment donné où j'ai eu une frousse. Puis, ouais. Puis j'ai décidé de commencer à barrer à partir de ce moment-là.
Des chicane fois, de voisin. J'arrive chez nous. Moi, ça arrive, les chicanes chez nous pour ça. Là. J'arrive chez nous. La seule maison qui est éclairée, c'est la mienne. La porte arrière est ouverte. Il y a juste la passe, là, la moustiquaire ouais. Qui est là, qui sert de protection. Les trois filles dorment dans la maison. Il est 11h le soir. Ça me fait paniquer à chaque fois. J'ai le goût de rentrer et dire « À quoi vous pensez? »
Ils sont courageuses.
Mais on dirait qu'ils pensent pas sale.
Ah, mais moi, la nuit, par exemple, on est freak. Ouais. On fait chacune notre tournée de la maison, on se double vérifie. Et moi, j'ai des plans si quelqu'un rentre chez nous. Là. C'est ça. Hein. Mais quand on n'est pas là, je sais pas pourquoi, il y avait vraiment une inconscience parce qu'on habitait dans des coins toujours où on avait beaucoup de voisins, tout le monde se connaissait. Fait qu'on dirait que le sentiment de sécurité était présent. Puis à un moment donné, nous, il est arrivé une situation avec des voisins où là, on a commis un peu la frousse. Puis on s'est dit, ah, c'est-tu quoi, on va barrer à partir de maintenant. Fait que là, on barre le jour. J'ai ma clé. Je me suis fait faire une clé.
Ouais.
Parce que j'en avais plus, puis je m'en foutais un peu, parce que de toute manière, je ne m'aurais pas. T'sais.
Mon chum JP, il habitait dans la transition entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Il y a des escaliers. Là. Il habitait à côté de chez nous. Puis il était rentré chez lui. Puis il y avait un individu qui était assis dans son salon. Fait que lui, il est rentré. OK? Clac!
Il faisait quoi, le gars, assis
dans son salon? Il restait dans un mini-mini 2,5 là, avec une chambre. Fait que c'est pour te dire à quel point c'était petit. Là. Un 2,5 qu'une chambre, c'est très, très petit. Donc, dès qu'il a ouvert la porte, il a vu un gars qui était assis là. Il disait hey, « qu'est-ce que tu fais là? » Puis le gars, il est parti à courir vers la galerie. Puis après ça, il a sauté dans les escaliers qui fait la transition entre la Haute-Ville puis la Basse-Ville. Il a essayé de le rattraper, il n'a jamais été capable.
Il y en a si je vole de quoi, je ne m'assieds pas sur le divan. Je fais ça vite.
Ouais. Mais tu dis ça, mais je dirais pas à toutes les années, mais je me souviens de reportages qui passaient à TQS dans le temps ou encore à TVA. Puis il y a des gens qui allaient voler chez des gens, prenaient la peine de déjeuner, fouiller un peu partout, bien relax, foutaient le bordel, même à la limite, prenaient de la bière tout en volant chez la personne. Il y en a qui sont vraiment à l'aise. Là. Toi puis moi, on a l'impression de faire de quoi de pas correct, mettons. Là. Moi, je sors un téléphone cellulaire de mes poches, je pense que c'est le mien. Finalement, c'est le tien. Mon cœur commence à battre.
J'ose pas fouiller dans le frigo chez les gens ouais. que je connais. Je veux dire,
Non, mais, tu sais,
je comprends totalement ton exemple.
Je prends
ouais.
ton cellulaire, là.
T'es mal.
Là, rien, j'ai pris son cellulaire, puis là, je suis sorti de la bâtisse. Ça va penser que j'ai volé son cellulaire.
J'ai l'air de quoi?
Là, je suis le bord de faire une crise cardiaque. Mais eux autres sont capables de s'asseoir, déjeuner, prendre une petite bière, puis après ça, fouiller la maison.
C'est un peu psychopathe, c'est bord.
Oui, le gars qui était. Tu vas falloir que tu fasses Google, là, mais c'était un haut gradé. De l'armée canadienne. Le gars accompagnait des ministres, dont le ministre de la Défense. Il y a plusieurs photos où il est posé à côté de lui. Puis il s'introduisait chez les femmes. C'est un tueur en série, soit dit en passant. Il s'introduisait chez les femmes, puis il s'habillait de la façon dont la femme était habillée.
Okay.
J'ai en tête Colonel Russell Williams. Ça se peut-tu?
Okay, tu je sais pas nom, si c'est ça, facile, là,
parce que je vois de mémoire. Des fois, c'est un petit peu plus dur d'y aller de mémoire comme ça. Mais tape Colonel Russell Williams, image, là, puis tu vas le voir en petite tenue de femme. Ce gars-là avait aucune gêne à mettre le linge des filles qui venaient d'agresser sexuellement.
Ah oui, oui, c'est exactement ça. Hey, mon Dieu! Hein?
C'est un pan de mur. Là.
C'est très particulier,
fait que lui, là, de rentrer chez quelqu'un, là, il n'avait aucun stress avec ça.
Oui, mais il faut vraiment que tu aies un manque de conscience. Il ne faut comme pas que tu réalises, j'ai l'impression, ce que tu fais. Parce que c'est débile, là, je veux dire. Toute personne normale a un stress immense de se faire pogner à base. Là. Hey, c'était 82 accusations contre le colonel Russell Williams.
82?
Et t'as une méchante mémoire, hein?
Ah oh, oui, puis j'en ai des affaires comme ça. J'ai Sergent Lefebvre aussi. Sergent Lefebvre, c'est un gars qui avait tué...
Il était au pénitencier de Port-Cartier, lui.
Russell Williams?
Oui. Qui est pas mal le pire qu'on a. Ah oh, ouais, mais non, faut vraiment que tu sois craqué, honnêtement. Là. C'est assez particulier.
Attends un peu, j'en ai un autre pour toi. Là, je vais le taper, celui-là, parce que je suis plus trop sûr de son prénom. Serge Lefebvre. Serge Lefebvre, c'est un particulier, ça. Dans le temps, il était à Québec. Il y avait la police de Sainte-Foy, Audrey, puis il y avait la police de Québec. Et le gars était reconnu comme étant tout le temps le gars qui était le premier arrivé sur place. Fait que quand les flics arrivaient, là, il y avait comme une alarme de bâtisse qui sonnait. Ben lui, il était déjà tout
lui,
le temps...
Lui, c'était un ex-policier.
Tout le temps sur place, oui. Et les policiers se demandaient tout le temps pourquoi. Ils disaient, ben crif, il est plus vite que les autres. Là. Il est tout le temps rapide, sa gâchette. Pour finalement s'apercevoir que c'était un voleur. C'est un voleur à la tire, mais c'est un policier. Et à un moment donné, il y a deux flics qui se sont fait tuer. De mémoire, c'est deux flics de la ville de Québec. Sergent Lefebvre, c'est un flic de Sainte-Foy. Puis l'alarme d'une entreprise a retenti, puis ça a sonné à centrale. Et là, Sergent Lefebvre, les deux policiers se sont présentés à l'endroit où l'alarme a sonné, puis ils se sont fait tirer. Et à ce moment-là, André Arthur, le lendemain à la radio, avait dit « Deux policiers qui se font tirer dans le dos alors qu'ils ont, ils ont encore les armes directement à la taille. » Bien, la personne qui les a tirés, ça veut dire qu'ils les connaissaient. Puis le chef de police de Sainte-Foy à l'époque, il avait donné rendez-vous juste à côté de l'Aquarium de Québec, André Arthur, dans le stationnement. Puis il avait dit « Ce que t'as dit là, t'as raison. Effectivement, les deux policiers qui se sont fait tuer à Québec connaissaient probablement la personne qui les a tués. » Juste te dire, tu ne dis plus rien de cette cause-là, puis je t'assure que tu vas avoir ça en primeur lorsque je vais réussir à arrêter l'individu. Et quelques jours plus tard, Sergent Lefebvre avait été arrêté. C'est lui qui les avait tués.
Ouais, c'est en 1985 que ça s'est passé.
C'est lui qui les avait tués à l'époque. Et quand il est sorti de prison, Audrey, après plusieurs années, ben, il a recommencé à faire des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Il s'introduisait chez les femmes.
C'est débile. Hein?
Puis il volait les sous-vêtements.
Je trouve ça craquerait, c'est dégueulasse. Oh, Seigneur!
Non, je veux dire, tu sais, t'es un tueur, t'as payé ta dette à la société, mais tant qu'à moi, t'aurais dû rester en tôle. Mais là, tu sors de là, puis tu t'introduis encore chez des femmes pour voler leurs sous-vêtements.
Ah, c'est complètement débile. Il avait aussi tenté de s'enlever la vie à travers tout ça, là. J'imagine qu'il y avait peut-être une certaine conscience, j'imagine. J'ai aucune idée, mais effectivement, que ces histoires-là sont assez particulières.
Tu sais jamais qu'est-ce qui t'entoure, Audrey. Fait que barre tes portes.
Oui, bien écoute, si tu viens de me faire peur, fait qu'officiellement, je vais texter ça au petit chum, là.
Gros show aujourd'hui. Gabriel Hardy, qui est là, directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie et du conditionnement physique, qui sera avec nous. Il va réagir à une nouvelle qu'on a vue passer hier dans l'actualité où Québec songe à offrir des médicaments gratuits à 1000 patients. On parle, bien sûr, du fameux Ozempic. Donc, Gabriel Hardy a quelque chose à dire pour ça. Puis on a David Beaupré aussi, qui est assez gentil pour se présenter avec nous autres en studio. Il va nous parler de sextorsion. Sa propre fille a été victime de sextorsion.
Oui, ça a été toute qu'une histoire, évidemment, pour la famille. Puis tu sais, il y a tellement de questions autour de ça. Tu fais quoi comme parent? Tu sais, vers qui tu tournes? Comment tu fais en sorte que ça arrête? Fait que oui, effectivement, beaucoup de courage de la part de David. Fait que c'est un gros show, mon ami.
Gros show, monsieur, madame. 10h14, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On a-tu quelque chose à faire tirer aujourd'hui? Ah oui! Roger Or. Pour en savoir plus, restez là. On s'en va en musique! Sarah Dufour avec Chez Témil sur Boulevard. C'est une bonne nouvelle qu'on a cette semaine. Dame Nature ne veut pas nous enlever l'été. L'été continue. On est bien à Québec. C'est autour de quoi? 20 degrés actuellement?
Oui.
Donc, on est très gâtés.
Gros soleil.
Du beau soleil. Même chose pour ce qui est de ce soir. Soleil en moins. Ça va être un beau ciel dégagé, minimum de 14. Mais pour aujourd'hui, un genre de 27 avec humidex. Ça pourrait être une température ressentie de 32. Demain, mercredi, une belle journée ensoleillée avec un max de 28. Jeudi, ensoleillé, maximum de 27. Vendredi, ensoleillé avec un maximum de 22. Puis je regarde pour ce qui est du week-end, le topo ne change pas, Audrey. Là. Peut-être que le mercure descend un peu. Là. Tu vois, samedi, on parle d'un maximum de 19, mais c'est plein soleil pour samedi et plein soleil pour dimanche.
Ça va être des journées parfaites pour aller aux pommes.
Ah, il y a ce petit de pomme.
On est là-dedans un petit peu pire en ce moment.
Hey, on en parlait tantôt, Québec qui songe à offrir des médicaments gratuits pour 1000 patients. C'est un projet d'une durée de 2 ans. Puis on dit que les médicaments, ben, comme Ozempic, sont exclus du régime public d'assurance médicaments. Et la consommation d'Ozempic peut coûter à peu près 500 $ par mois. Donc, c'est une belle, c'est un bon montant là, qu'on veut donner à chacun des individus qui vont faire partie de ce projet-là. Bon, à ça, il y a des critères de sélection. On en parlera un petit peu plus tard. Mais j'ai vu que Gabriel, on va l'appeler Gab ou Gabriel Hardy, avait réagi à ça hier. Puis je me suis dit, tiens, Audrey, on va lui jaser. Gabriel Hardy, c'est le directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Il est aussi propriétaire du gym, du Tonic Gym. Salut, Gabriel.
Comment ça va, gang?
Ça va très bien. Quand t'as vu ça, t'as-tu tombé en bas de ta chaise?
Pas vraiment, parce que tu sais, c'est quelque chose, c'est une forte tendance aux États-Unis qu'on voit. Il y a même des gyms comme Life Fitness ou je pense que c'est ça, qui se sont associés avec des cliniques qui prescrivent ce genre de médicaments-là. Donc, ils ont parti des cliniques dans leur gym pour s'assurer que ce mouvement-là qui prenait place, ben, finalement, était capable d'être pris en charge aussi par les kinésiologues et les entraîneurs. Donc, la clinique prescrit du Ozempic. Mais il y a un programme tout de suite avec un entraîneur pour que les saines habitudes de vie se prennent. Le problème qu'on a dans cette bonne-mauvaise nouvelle-là ou mauvaise-bonne nouvelle, prenons-la comme on veut, c'est que si on met en place ce genre de prescription-là, qui dans le projet pilote sur 2 ans, on parle de 1,2 million qui vont être investis là-dedans, ben si c'est mal fait, ben ça va être plus problématique que bénéfique. Et là, le problème qu'on a avec le Ozempic, c'est que les études les plus récentes démontrent que 50 % à 75 % de la perte de poids est une perte de masse musculaire. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est bien beau perdre du poids, mais tu ne veux pas perdre ta masse musculaire. Elle est très bénéfique pour ton corps. Les muscles, c'est des organes qui sont vitaux. On a besoin de nos muscles en vieillissant, notamment pour la longévité. On le sait, les personnes âgées, par manque de force, quand ils vont chuter, va mener vers des fractures à la hanche et tout ça qui mène vers des complications. Donc, si on s'en va prescrire un médicament qui va avoir un résultat incroyable, mais qui va amener une perte de masse musculaire comme ça, sans avoir de nutritionniste, sans avoir de kinésiologue dans l'aventure, tu sais, pour s'assurer qu'on prévient ça, on est en train de créer un grave problème.
Là, le Ozempic va chercher une partie de la masse musculaire, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il va chercher la fameuse graisse viscérale qu'on peut avoir qui traîne entre les organes?
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'une personne, exemple, qui est obèse morbide ou qui est obèse, là, et qui n'est pas accessible à la chirurgie bariatrique ou qui est vraiment dans l'aventure, là, pas prête à, je ne sais pas moi, la diète ou à tout essayer, c'est une solution vraiment intéressante et c'est une solution miracle, que l'on ne se le cachera pas. Tu sais, moi, je pense que c'est le médicament qui va sauver les États-Unis. On parle présentement d'une personne sur deux qui est obèse en Amérique. Le Canada suit la tendance de manière très forte. Le Québec, on est à peu près 28 % de personnes obèses au Québec. Il y a certaines provinces qui traversent le 40 %. Donc, on a besoin de ce choc-là pour faire en sorte que certaines personnes changent leurs habitudes de vie.
Mais
Ceci.
si tu moi, Gabriel, ça mènera pas, par exemple, la santé nécessairement.
Ben, c'est ça le point, c'est que si tu fais juste donner un médicament, puis que finalement tu perds du poids à rien faire, entre guillemets, là, en prenant ton médicament, et que ce poids-là est relié à une perte de masse musculaire, tu réponds à un problème, en fait, tu vas résoudre un problème à moitié. Parce que l'autre affaire qu'on ne parle pas, c'est la déprescription. La personne qui embarque là-dessus, quand est-ce qu'on lui dit, ben, ça serait bon que tu commences à plus le prendre, à retirer tes doses et whoop, vers un transfert de aujourd'hui, tu es capable de bien vivre, tu manges bien, tu t'entraînes, tu prends soin de toi. C'est ça qui est l'objectif final. Et c'est ça qu'on parle rarement dans la prévention, hein? On est tout le temps dans le curatif. Alors là, tu sais, en tant que gouvernement, il se dit, bon, la population, la sédentarité augmente, l'obésité augmente de manière importante. On a gagné 3 % d'obésité dans les 5 dernières années au Québec. Tu sais, la courbe est en train de monter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est correct que tu penses que c'est une solution, ça, mais il faut qu'elle soit ajoutée à un nutritionniste, ajoutée à un kinésiologue qui va prendre ensemble la vue globale. Il faut que tu commences à arrêter l'afflux de personnes qui vont dans la sédentarité, qui prennent du poids de manière excessive et qui perdent le contrôle. Donc, la prévention est une étape. Et après ça, le côté curatif ou aller aider ces personnes-là en est une autre aussi.
J'ai vu les statistiques que tu as mises sur ta page Facebook. Un cancer sur deux est lié à l'obésité.
Aux États-Unis, ça, c'est une étude qui est sortie en 2020 qui démontrait qu'un cancer sur deux chez les Américains était lié à l'obésité. Et ça, c'est grave parce qu'aux États-Unis, le plus gros tueur d'Américains, c'est les crises cardiaques et le deuxième, c'est le cancer. Au Canada, on inverse ça. C'est le cancer qui est la cause de mortalité numéro un des Canadiens. Et le numéro deux, c'est tout ce qui va être au niveau cardiaque. Après ça, tu as le diabète. Après ça, tu as les maladies là, pulmonaires et compagnie. Mais dans l'ensemble, quand tu vas voir les facteurs de risque de ces maladies chroniques-là, l'inactivité physique, la sédentarité est tout le temps dans le top. Alors, si tu veux éviter que la population tombe malade, si tu veux retirer un poids sur le système de santé, il faut mettre en place des actions en prévention. Il faut arrêter d'attendre que finalement on soit rendu au bout à se dire, ouais, là, toi, il faut qu'on donne des médicaments pour perdre du poids. Est-ce que c'est un problème de faire cette solution-là? Non. Tu sais, c'est correct, je pense, pour ces personnes-là, si on a une belle évaluation de leurs conditions, si on comprend bien, OK, ils arrivent de où, qu'est-ce qui a été fait avant, et qu'on les met dans un plan de match avec une approche holistique, il n'y a pas de problème avec plusieurs intervenants. Ceci étant dit, quand, là, c'est 6 000 $ par année qui vont être investis par personne. Si tu es rendu à investir 6 000 $ par année par personne pour aller en curatif pour régler le problème, j'espère que tu as commencé à regarder le préventif parce que ça coûte cher en tabarnouche par citoyen
Mais
de
c'était
mettre
ça que je voulais dire.
6 000 $.
C'est un peu ça mon point, c'est que je trouve ça tellement beau le discours qu'on a en ce moment, sauf que j'ai l'impression que c'est pas réaliste, Gab, parce que quand tu y penses, oui, il faudrait un nutritionniste, puis un entraîneur privé, puis un kiné, puis un ci, puis un ça, sauf que on n'a pas le portefeuille pour ça nécessairement. Fait que tu sais, ces
En
gens-là qui vont avoir accès à ce médicament-là, éventuellement payé par le gouvernement, ben si c'est leur seule solution rapide, facile. Mais c'est certain qu'on va aller vers là, tu sais. Même moi, j'ai pas le budget là, pour me payer un entraîneur, une nutritionniste, un ci, un ça. Faut que je fasse des choix à un moment donné pour y arriver, tu sais.
fait, c'est là que je crois qu'il y a plusieurs solutions qui doivent être prises en compte. Et évidemment, la solution miracle, on ne l'a pas. On voit, tu sais, les écrans qui gagnent de plus en plus en popularité chez les jeunes et tout ça. Je pense qu'on a plusieurs interventions à faire si on veut être capable de, à long terme, réagir à ce qui s'en vient en frais d'augmentation de la sédentarité, d'augmentation de l'obésité, qui on voit la croissance déjà en place. Donc, est-ce que la solution, c'est d'investir, que le gouvernement paye des entraîneurs ou paye du Ozempic ou paye, paye et paye? Je pense pas que la solution, c'est au gouvernement de faire ça. Certainement, par contre, qu'il y a des approches qui doivent être faites pour encourager la prévention. Tu sais, je donne des approches très simples comme des crédits d'impôt pour les gens qui prennent soin d'eux, comme les entreprises qui investissent dans la santé de leurs employés.
Exact.
Combien d'entreprises aujourd'hui là, font venir des kinésiologues, payent des nutritionnistes, payent de l'entraînement, s'inscrivent à des cours de groupe, s'inscrivent à des défis santé? Tout ça, c'est des avantages imposables. Si ton employeur te le paye, c'est comme si tu augmentais ton salaire.
C'est ça. Ben,
Alors,
pour ne pas le, pour ne pas la nommer, Desjardins fait ça avec certains de ses employés, Audrey. Si, admettons, tu es inscrite à un gym, tu donnes la facture à Desjardins, puis il y a des chances qu'il te rembourse ton inscription au gym. C'est formidable, sauf que c'est imposable. C'est un
c'est
avantage
ça.
imposable que le gouvernement va te chercher encore.
Bien, ça, je trouve
Et
ça
autre
super
chose,
positif.
ben non, c'est négatif.
Bien, pour
C'est
les. Non,
négatif.
c'est négatif, mais pour l'employé, c'est bon, me semble, d'avoir son centre payé. OK, j'ai peut-être
Oui,
pas compris de
mais
quoi.
il se fait
Répète-moi ça,
imposer
là.
plus. C'est-à-dire que si, par exemple, je te donne pour 500 $ d'entraîneur, tu
Oui.
te fais imposer comme si j'avais augmenté ton salaire de 500 $, alors que tu n'as pas besoin d'être imposé là-dessus.
Je te
L'entreprise
suis.
fait une dépense qui fait sauver de l'argent au gouvernement,
Oh, oui.
fait sauver de l'argent aux contribuables. Et l'autre chose aussi là-dedans, c'est les assurances collectives. Les assurances collectives, présentement, vont couvrir les frais de médicaments pour la dépression, vont couvrir les frais de l'absentéisme, on le sait, et tout ça, vont couvrir plein de médicaments, vont couvrir le chiro, vont couvrir, mais aucune couverture pour le kinésiologue en prévention. Alors qu'un assureur devrait dire, hey, si tu prends soin de toi, je te remercie. T'sais, on le fait pour les voitures. Là. Si tu conduis bien ta voiture, tu respectes les limites, on baisse ton pourcentage, on te donne un rabais à la fin de l'année. Là, combien d'assureurs le font? Mais crime, si tu avais des saines habitudes de vie, pourquoi tu n'as pas un rabais sur tes assurances? Alors, tu sais, c'est ce genre de choses-là qui, je crois, enverrait des messages très forts à la population sans enlever l'idée de donner une ressource aux gens qui sont obèses, qui vivent avec cette maladie chronique-là et qui veulent s'en sortir. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée. Je pense juste que si on la fait sans aucun protocole de déprescription, sans aucun accord avec des nutritionnistes et des kinésiologues, on va, je crois, amener une solution très temporaire à un problème de longévité et de long terme. C'est pas normal que tu perdes 50 à 75 % de ta masse musculaire, en fait, du poids que tu perds soit en lien avec la masse musculaire. Ça, là, tu es en train de te nuire malgré que tu as bien réussi à perdre du poids.
Avez-vous un plan pour essayer de véhiculer ce message-là? Tu sais, t'es directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie de conditionnement physique. Y a-t-il un message qu'on est capable de passer au gouvernement? Parce que, tu sais, c'est toujours le fun quand on en jase en ondes ensemble, mais des fois, on n'a pas l'impression que le message se rend nécessairement. Fait qu'y a-t-il une façon de le pousser de l'avant?
On fait des démarches, on fait des démarches autant au niveau fédéral que provincial sur, exemple, les crédits de taxes, les crédits d'impôt, sur des campagnes de publicité. Tu sais, nous, on demande toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on fait des campagnes présentement sur la prévention du tabagisme, on fait des campagnes sur la prévention de l'alcool au volant. Il n'y a pas une mort qui est plus importante qu'une autre. C'est un décès, c'est un décès. Mais pour moi, quand je regarde, ça frappe à l'œil un accident d'auto avec une personne qui avait bu, ou ça frappe à l'œil, tu sais, quelqu'un qui a une maladie pulmonaire en lien avec la cigarette. Mais le nombre de maladies chroniques présentement, là, qui tue les Canadiens en lien avec la sédentarité et l'obésité, là, ça doit être 10 fois, 20 fois, 100 fois le nombre de personnes en lien avec les maladies pulmonaires puis la cigarette ou l'alcool au volant. On a besoin d'une campagne de publicité choc qui met en place ou qui met devant les gens le fait qu'ils ont en main leur santé et que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité personnelle. Donc, si on le demande, des crédits de taxes, on demande aussi d'aider les étudiants vers les métiers en santé préventive, des subventions pour les études vers les métiers de santé préventive. Donc, oui, c'est des actions qu'on fait et qu'on va continuer à faire dans les prochaines années.
Ouais, puis on va toujours être de ton côté, Gabriel, là-dessus, c'est sûr et certain. En parlant avec ma conjointe, des fois, je retire de l'information du merveilleux monde de la santé. C'est une infirmière. Elle va m'en vouloir de te dire ce que je vais te dire là, mais je m'organiserai avec à soir. Si elle n'est pas gentille, elle n'aura pas son anane. Mais elle me dit que quand l'Ozempic a commencé à sortir, puis là, on a commencé à voir qu'il y avait des bienfaits, entre guillemets, au niveau de l'obésité, ça pouvait faire maigrir. Ben là, les filles dans les hôpitaux ont eu vent de cette information-là, puis allaient très rapidement voir les médecins pour se faire prescrire. C'est assez facile, le médecin, il emmène dans le même édifice qu'eux, pour se faire prescrire du Ozempic. Et les médecins ont dit, ben oui, pas de problème. Même si c'était juste un 15 livres à perdre, même si c'était juste un 30 livres à perdre ou un 45, là, je dis juste, là, mais je comprends qu'il y en a qui essaient de perdre du poids, c'est très difficile. Mais, tu sais, 15 livres, prescrire du Ozempic, vraiment, là? Je veux dire, un médecin ne se respecte pas. Il respecte pas sa patiente quand il prescrit du Ozempic pour qu'elle perde son 15 livres.
Ça doit être des exceptions, par exemple.
Non, c'était pas des exceptions. Écoute, l'hôpital au grand complet, là...
Parce qu'ils ont des règles, normalement, à respecter.
Bien, c'est ce qu'on s'attend. Puis de l'autre côté, moi, il y a un médecin qui m'a dit, « Yann, maintenant, là, que je me fasse accuser de grossophobe ou pas, moi, je me suis fait, j'ai rencontré un patient, il m'a dit, « On prend rendez-vous l'année prochaine. » Il dit, « Je pense pas que tu vas être là l'année prochaine. » Puis le patient a demandé pourquoi. Bien, il dit, « Si tu continues comme ça, ça va être terminé pour toi l'année prochaine. Tu te rendras pas là. » Puis le patient a commencé une prise en charge de son corps. Puis elle a commencé à s'entraîner. On n'a pas de nouvelles, là, mais ma conjointe m'avait dit que quand ça a sorti l'Ozempic, les filles allaient toutes voir leur médecin à l'hôpital.
Ah, mais oui, mais ça a été une mode, ces réseaux sociaux, c'était épouvantable.
Mais c'est pas une mode, c'est dangereux, ce médicament-là.
Totalement, mais on est passé, puis Gab, peut-être que tu peux confirmer, mais on est passé sur les réseaux sociaux d'une mode de gym. Moi, dans mes algorithmes, là, j'avais beaucoup d'affaires d'entraînement, puis je passais d'exercices sains et d'alimentation saine à. Sur TikTok, tout ce que tu voyais, c'était des filles qui se piquaient dans le ventre parce que c'était la nouvelle affaire, puis c'était rendu facile. T'sais, en dedans d'un mois, tu avais tout perdu. Puis tout allait bien, là.
Bien, c'est le problème de voir la mode du Ozempic. Les publicités à la télé, à la radio, on les entend. Ils ont commandité les Olympiques de manière assez intense. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de promouvoir la bonne chose avec un médicament qui peut être miracle pour plusieurs personnes? Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais certainement que pour qu'ils perdent, encore le même exemple. Je veux perdre 15 livres. Premièrement, ce n'est pas du Ozempic que ça te prend. Puis deuxièmement, si tu perds 15 livres, mais que 10 livres sur 15, c'est du muscle, tu viens de te nuire. Donc, peut-être que ta balance va te féliciter, mais en bout de ligne, tu viens de te nuire. Donc là, quand tu arrêtes de le prendre, ta faim revient, mais là, tu as nuit à ton corps, qu'il y a moins de masse musculaire, tu es dans une position précaire. Et là, il va falloir que tu travailles encore plus fort pour aller la regagner. Donc, si c'est pour éviter l'effet yo-yo des diètes de prendre ce genre de médicaments-là, c'est bien pire qu'une diète, ce que tu viens de faire là. Alors, il y a des bienfaits. T'sais, je lisais des études sur le fait que les gens qui consomment du Ozempic, exemple, avec le temps, ils viennent désensibiliser au goût du sucre. Donc, pour avoir un goût de sucre, il faut qu'ils prennent plus de sucre. Plus de sucre. Puis, tu sais, je pense que c'est assez facile à voir. Les Européens, quand ils débarquent en Amérique, ils trouvent que tout est sucré, tout est salé. Mais nous, on est comme, ah, ben ouais, mais je sais pas, moi, c'est normal, tu sais. Alors, ceux qui consomment beaucoup de sucre dans leur vie et qui viennent un jour à devenir obèses sont désensibilisés. À force de prendre du Ozempic, à la longue, cette sensibilité-là au sucre revient. Donc, ils commencent à goûter les aliments de manière « Oh, OK, non, non, ça, c'est trop sucré. » Alors, ça, c'est un bon effet, c'est-à-dire que tu redeviens conscient un peu de ton alimentation et tout ça. Donc, c'est pas mauvais, mais pris pour perdre 15 livres, c'est une erreur. Pris pour juste faire un shortcut, c'est une erreur.
C'est que c'est censé être une aide, pas une solution, finalement.
Exactement. Donc, est-ce que le gouvernement, présentement, prend en compte le fait que 50 à 75 % de la perte de poids est en lien avec le muscle? On va le savoir assez vite. S'il n'y a aucun programme d'entraînement musculaire, parce qu'on le sait, hein, on en parle souvent ensemble, Les prescriptions de l'OMS puis de Santé Canada, c'est 150 minutes d'activité physique moyenne à élevée par semaine, plus deux programmes d'entraînement musculaire. Ça, c'est ce qu'on devrait faire dans la vie pour rester en forme longtemps. Alors, si on prescrit ce médicament-là à ces personnes-là, ces 1000 patients, et qu'il n'y a pas de programme de musculation qui est mis dans l'aventure, et qu'il n'y a pas de rencontre avec un nutritionniste pour balancer ton apport en protéines pour être sûr que tu ne perds pas de muscle, on a un problème. On vient de créer un autre problème. On a voulu te créer une solution, mais on a créé un problème avec notre solution. Et ça, je pense qu'il faut en parler.
Continue de travailler fort, monsieur Hardy.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ce matin. C'était super apprécié.
Salut, passe une belle journée.
L'excellent Gabriel Hardy, qui est directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. La graisse viscérale, c'est ce qu'il y a de pire là, au travers des organes.
Oui.
Puis te libérer de ça, ça doit être un calvaire. Parce que si tu t'entraînes pour espérer te libérer ça, ça peut prendre des semaines et des semaines et des mois. T'en finis plus. L'Ozempic, c'est un produit que tu vas prendre qui va t'aider, mais il faut que tu fasses d'autres choses au travail.
Oui, bon, c'est
qu'on
manque d'éducation par rapport à ça. C'est tellement arrivé vite comme une solution miracle que tout le monde s'est pitché là-dessus. T'sais, on a un texto qui est rentré, je suis diabétique de type 2. J'ai eu plusieurs semaines sans pouvoir me procurer Ozempic à cause de la forte demande. C'est épouvantable. On oublie qu'à la base, c'est fait pour les diabétiques. Quoique là, ils sont en train de travailler en ce moment sur mille et une autres pilules et injections qui ne visent pas à la base des diabétiques et seulement la perte de poids. Mais... On parlait du côté santé physique, il y a le côté santé mentale aussi. Tu sais, quand tu y penses, là, à la base, Ozempic, là, c'est une espèce de coupe-faim aussi, là. Fait qu'il y a beaucoup de nutritionnistes, là, quand on a commencé à parler, qui étaient sortis en disant ton cerveau manque de nutriments, tu nourris pas assez ta tête, ça crée des problèmes de dépression, ça crée plein de... C'est pas juste physique, là, tu sais, fait qu'il y a... Il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir avant de prendre un produit comme celui-là. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a décidé de le prendre pendant 3 mois pour se starter, pour s'aider comme du monde, pour reprendre sa santé en main. Ça a été assez miraculeux parce que ça lui a permis de recommencer à bouger. Okay. Ce qu'elle pouvait plus parce qu'il y avait trop de douleur, trop d'embonpoint.
Ça, c'est hyper positif. Hey, c'est une personne sur trois au Québec qui est gros.
C'est capoté, là.
Ouais.
C'est sûr que ça me verrait parce que c'est un autre sujet pour une autre fois, là, mais je veux dire, être gros selon les médecins, c'est très relatif. Là. Il y a bien du monde qui sont considérés obèses, qui sont pas si obèses que
ça. Moi, je me suis acheté
plus,
une montre intelligente, puis quand je fais pas ma journée de sport,
elle
me
dit lève-toi le gros.
Lève-toi le gros tas. Des fois, il y a des petites erreurs parce qu'elle me dit c'est le temps de vous lever, mais je suis déjà debout.
C'est ça, oui, mais faut que tu bouges.
Mais pour le reste, là, calcule le nombre de calories que je peux dépenser dans une journée avec les activités physiques. Fait que quand je vois que j'ai pas assez bougé, puis ma montre me le dit, ben, je vais en prendre une petite. Marche avec
ouais.
Un chien. Le chien est bien content, puis ma montre est bien contente.
Ça te fait bouger.
Elle arrête de vibrer. All right, 10h36, les Quickie News de Max à l'instant. Boulevard 102.1. 10h39, Audrey, tu m'as mis dans le trouble.
Comment ça?
T'as commencé à parler de pommes tantôt.
Oui.
Devine qui m'a écrit.
Ta blonde.
On va aux pommes en fin de semaine. On peut-tu?
Oui, mais c'est ce moment-là de l'année. Puis là, il va faire frais, il va faire beau, c'est parfait. Là.
Je fais un appel à tous, là, les gars, les filles, au 418-971-1021. Je peux-tu aller à quelque part aux pommes sans que j'aie à prendre un pont?
Mais moi, j'ai un endroit pour toi. C'est un peu plus de route, mais t'as dit que t'aimais rouler.
Mais je veux juste pas de pont.
Ben moi,
parce
chez
que
nous,
pont,
là...
Le pont de Lille pendant le temps des pommes,
Deschambault.
C'est hallucinant. Là. Il y a
à
trop
Deschambault,
de monde.
T'as deux vergers. Qui, ouais. Même, ça s'appelle des vergers, je suis pas folle. Vergers, ouais.
Oui.
Qui sont... j'ai commis un... j'étais plus sûre.
C'est pas grave, ça m'arrive à toutes les secondes.
Une pomme, une banane, je sais plus. J'ai deux vergers qui sont comme collés. C'est à 138 devant l'eau. C'est magnifique comme spot.
Comment ça s'appelle?
Verger du Roi. Verger du Roi, oui. C'est super beau. Puis écoute, c'est tout petit, c'est mignon. Normalement, c'est le monde de Deschambault et les alentours qui viennent. Tu fais à 40, ça va, ouais. Il va faire beau en plus en fin de semaine. Je te le conseille, c'est vraiment un solide spot. T'es à côté du village en plus.
Y aller, c'est le fun. C'est juste le temps où elle veut prendre des photos pour avoir des souvenirs.
Oui, mais ça, c'est important, Yann. Ça, il faut que tu t'habitues.
Ouais.
C'est la vie. Là, ça,
c'est,
oui.
Non, c'est les filles.
Oui, oui, mais c'est en même temps,
c'est
ça,
quoi, j'ai
nous
l'air sur la photo avec ma pomme?
Oui, oui, OK, ça, je comprends, là. Sauf que sans ces souvenirs-là, dis-toi que tu n'aurais rien à regarder puis tu n'aurais aucune nostalgie, puis c'est important.
Ouais,
mon chum, il chiale aussi.
Il y a plein de monde qui me disait ah, « Ouais, en Beauce, je t'en Beauce, je pense, samedi. Mon gars, il joue au hockey samedi. » Fait que ça va peut-être être plus dimanche, mais je veux pas traverser le pont la fin de semaine. Je suis un peu tanné. On me dit que Neuville, il y a Pomme-de-l'Île là-bas.
Oui.
Il y a Comte de Roussy à l'Ange Gardien, je connais pas.
Il y a vraiment des beaux spots où t'as pas à être dans le monde puis à être dans le tourisme, mettons, là. Ça vaut la peine, des fois, de t'éloigner un peu.
Ouais.
On va peut-être se croiser, moi, je risque d'y aller en fin de semaine. Okay. Là, tu ne voudras pas venir.
Tu me diras où tu vas. Tu me diras où tu vas. Hey, le Rouge et Or, il faut que je vous parle du Rouge et Or. Pourquoi? Parce qu'il y a des billets à faire tirer au 418-971-1021 par texto. Je vais vous donner un mot de passe si vous voulez avoir accès à ces fameux billets-là. Le Rouge et Or qui affronte le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke au stade TELUS, ça se passe quand? Ça, c'est le 22 septembre prochain.
Dimanche.
Et qui dit match de football, ben, dit tailgate une fois de plus cette année. Boulevard, on sera sur place, venez voir. Dès midi, on aura plein de belles choses à vous faire gagner grâce à notre partenariat avec Laurier Québec. Carte cadeau sur place, des items à l'image de la station, Pogo, les Pogo de Max Larouche, les grignotines, etc. De plus, cette année, Laurier Québec va faire gagner une carte cadeau de 1 000 $ parmi les auditeurs qui passent nous voir au tailgate. Vous devez noter l'indice du match qui sera donné au kiosque de Boulevard et être à l'écoute de nos émissions le lundi suivant pour devenir finaliste. Achetez vos billets au rougeor.ulaval.ca.
Tu vas être là?
Au tailgate. On va essayer, mais là, il y a les pommes en fin de semaine.
Oui, moi, je vais sûrement aller faire un tour dimanche. On était là au dernier. Je sais que Max va être là aussi. C'est toujours des journées qui sont super belles.
Il
n'y
a pas de billets associés à ça. Je pensais qu'il y avait des billets.
Pas aujourd'hui. Ouais. On avait à faire tirer hier. Aujourd'hui, probablement qu'on les a cet après-midi. On a toujours une paire par jour, mais on se les partage. On peut pas tout avoir. Hein.
Voilà.
Tu sais qu'on a commencé aujourd'hui à choisir le nom de lutteur que tu vas avoir le 27 septembre prochain.
Oui, gros combat.
Est-ce que tu es au courant des 8 choix finaux qu'on a fait?
J'ai entendu celui que Pascal CV a présenté. Ça m'intéresse pas, non?
Mais je vais te les nommer quand même. Les huit finaux qu'on a choisis. Puis en passant, je vous dis ça parce que c'est à vous autres de voter hein, sur l'Instagram de Boulevard. Il y a Marceau Estrada.
Il y a Marco Estrada.
Oui, mais c'est où la blague, tu penses?
Je pourrais être son frère.
Mais oui, mais mettons là, que tu te fais la même coupe de cheveux puis tu mets même babette en cuir, on a un potentiel.
Mais
là,
j'ai pas la même shape. Là. J'ai l'air d'un maringouin à côté de l'autre. Là.
Le Marceau Pilami.
Non.
Yann Solo,
peut-être.
T'as-tu écouté les Star Wars?
Ben oui.
Ah,
ma génération.
Et mon doux, je suis vraiment.
Puis comment t'as dit ça? T'as-tu écouté les?
Les Star Wars. Star Wars. Marceau de viande.
Ça c'est Pascal CV,
c'est
encore?
C'est un beau jeu de mots. Non, ça c'est les choix des auditeurs, celui-là.
Okay.
Marceau Picard.
C'est un Serge, mettons, qui écrit Marceau de viande.
Je sais pas. Je te le souhaite pas, mon ami. Marceau Picard, Morceau Masqué.
Hein?
Marceau Polo, ça c'est mon préféré. Imagine dans la foule, Marceau! Polo! C'est un cœur en raide. Et Macho Man.
OK.
Fait que là, le combat d'aujourd'hui, c'est Marceau Estrada contre le Marceau Pilami. Et au moment où on se parle, celui qui a de l'avance, c'est le Marceau Pilami.
OK. Là, j'ai des remerciements à faire.
Oui.
Tu as la liste des commanditaires. Simon Laberge, pour mon costume, va donner 1 000 $. On a une compagnie d'informatique aussi.
Oui, bien là, tu as Passion Informatique qui va donner 100 $. Il y a T-shirt Image Express sur la côte de la Pente-Douce qui va printer ton chandail.
Merci.
Gratuitement. Il y a Pèlerin Inspection qui va donner 500 $.
Inspecteur en bâtiment, super le bon inspecteur, 15 ans d'expérience.
Il y a le 7e Ciel qui va sûrement te fournir les bobettes en cuir. Et là, on a Simon Laberge qui te donne 1 000 $. Fait que tu vas quand même être grillé. Là. Puis tout le surplus du costume, vous comprendrez que ça va directement à la bouchée généreuse.
Exact. Parce que le costume ne coûtera pas des milliers de dollars. Là.
Oh non, on est assez cheap. Moi, Pascal, on t'a fait ça simple.
Il y a très peu de cuir. Donc, on parle du gala de lutte Luttons contre la faim qui va être présenté par Boulevard. C'est quand? C'est le 27 septembre prochain au Centre Horizon. Ça va être à 20 h. Il y a 7 combats. Le main event, c'est moi contre Steven Sullivan en finale. On veut remplir la place. Il y a déjà plus de 230 personnes qui ont acheté leur billet. Merci de l'avoir fait, soit dit en passant. Chaque dollar de chaque billet va être envoyé à la bouchée généreuse. C'est une collaboration de matériaux Audet. Merci beaucoup à la gang de matériaux Audet aussi d'embarquer là-dedans. Puis pourquoi on le fait? Parce que la bouchée généreuse, c'est un organisme qu'on a, qui nous tient à cœur. C'est 1100 familles qui sont aidées chaque semaine, dont près de 2000 enfants. J'ai été bénéficiaire, moi, de ces paniers-là. C'était pas la bouchée généreuse dans le temps, c'était un autre organisme. Mais quand on était jeune, on avait besoin de ce type d'organisme-là chez nous. 52 500 paniers distribués durant l'année. Si vous ne pouvez pas être là, ben, vous pouvez aller sur labouchéegénéreuse.ca. Il y a un onglet pour pouvoir donner.
Dans les prochains instants, on va jaser à David Beaupré, qui est papa d'une jeune fille qui a vécu la sextorsion. Sextorsion, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est une forme de chantage. Donc, souvent, des internautes qui vont menacer d'envoyer envoyer des photos, des vidéos intimes de toi à d'autres personnes. Souvent, il y a de l'argent en bout de ligne de ça, certaines menaces. Il y a cyberaide.ca qui est une belle référence, en passant une belle ressource d'aide, là, qui dit qu'il y a en moyenne 10 signalements qui sont faits de sextorsion par jour. À peu près 80 % des incidents de sextorsion qui vont se produire sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat. T'sais, Snapchat a cette facilité-là à effacer les messages. Hein. Fait que souvent, c'est une plateforme qui est primée par les arnaqueurs, les sextorqueurs, je vais les appeler comme ça. Si vous avez des questions pour David qui venait nous raconter son histoire, 88-971-1021, n'hésitez pas, ça se passe dans quelques instants.
Trippin' Show. Sujet hyper intéressant qu'on va jaser dans les prochaines secondes. Juste avant, on va regarder ce qui se passe sur la route. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci beaucoup de nous informer au 88-971-1021. C'est 22 degrés sur Québec avec le facteur humidex, une température ressentie de 28 selon Environnement Canada. Pour ce qui est de ce soir, ciel dégagé, minimum de 14, demain mercredi, ensoleillé avec un maximum de 28, jeudi ensoleillé, maximum de 27 et vendredi, ensoleillé, maximum de 22. Marceau! On va voir ce qui se passe samedi-dimanche. Oui, OK. C'est ensoleillé pour samedi, c'est ensoleillé pour dimanche. Fait qu'il n'y a pas de probabilité d'averse de prévu. L'été, il ne veut pas partir.
T'es pas le seul papa, en passant, là, qui est pogné pour aller aux pommes avec la petite famille.
Non.
Tout seul. On a reçu des textos. Les gens sont vraiment de ton bord.
Oui. Mais là, il y en a un qui m'a dit, tu sais, Yann, on comprend pas pourquoi on va faire une sortie familiale aux pommes alors que je peux en acheter chez GA.
Non, mais c'est pas pareil.
Je comprends que c'est pas pareil.
Donc.
Vous pouvez pas prendre des photos.
Mais non, mais c'est au-delà des photos, c'est le moment, c'est l'activité, c'est le fait d'être dehors en famille. Vous comprenez rien, c'est épouvantable.
Sur la route.
Il se passe pas grand-chose. Il y a sur la 20 direction ouest, il y a peut-être un début de ralentissement à la hauteur de Taniata, mais honnêtement, après le cafouille de ce matin, là, ça se passe vraiment bien sur les routes. Évidemment, il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. C'est le 418-971-1021 par texto.
Étant père de jeunes enfants, quand André m'a raconté l'histoire de l'invité qui va être avec nous dans les prochaines secondes, j'ai commencé à stresser parce que je suis pas très alerte, moi, sur les réseaux sociaux avec mes gars. Mes gars ont Snapchat, puis ils jasent avec leurs camarades de classe, puis ils ont l'air à avoir bien du fun, mais je ne porte pas attention à ce que mes gars font sur Snapchat. Je n'ai pas encore abordé le sujet de t'envoies pas ton pénis à une jeune petite fille,
ouais.
Mais peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je commencerai à aborder ça avec mon plus vieux puis mon plus jeune.
Je pense que ça fait partie peut-être des raisons aussi du pourquoi on en parle ce matin puis on va raconter l'histoire de David. C'est que tu as tout le temps l'impression que c'est pas à toi que ça va arriver puis c'est pas à tes enfants. Tu as bien éduqué tes enfants, je veux dire, ils sont bien encadrés, ils sont au courant que les réseaux sociaux, c'est pas tout vrai. Je veux dire, l'information circule tellement que tu as l'impression que ça peut pas t'arriver. Puis finalement, quand tu commences à regarder autour de toi, bien, Krimbin, il y a bien du monde qui ont vécu des affaires assez particulières avec la sextorsion.
C'est qu'on a c'est une impression. On a l'impression qu'on a confiance en notre enfant. Parce qu'on dit notre enfant a du jugement. Le problème, c'est qu'on le dit avec les yeux qu'on a là.
Oui.
Mais un enfant d'11 ans...
C'est une page blanche.
C'est une page blanche.
Oui,
il débute sa vie.
Oui.
Donc, David Beaupré, qui est père d'une jeune fille qui a vécu de la sextorsion, elle avait à ce moment-là 11 ans. Salut, David.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous puis d'accepter de livrer ton témoignage. Je pense que c'est un témoignage qui va faire en sorte que les parents vont peut-être être plus vigilants. On va commencer avec qu'est-ce que la sextorsion, Audrey?
Oui, bien, pour ceux qui ne savent pas, à la base, la sextorsion, c'est un terme pour dire chantage. Chantage sur les réseaux sociaux, c'est des internautes qui vont menacer d'autres internautes d'envoyer des photos, des vidéos intimes, souvent contre de l'argent ou contre, c'est certaines des menaces en échange pour être sûr d'avoir des images. T'sais, c'est plate à dire, mais t'as beaucoup de pédophiles qui vont faire de la sextorsion. T'as des jeunes innocents aussi, là, des jeunes ados de 17 ans qui veulent absolument avoir une photo, tu comprends, des seins de leur petite blonde. Là, ça se pratique à plusieurs niveaux, la sextorsion, mais à la base, c'est vraiment du chantage sexuel sur les plateformes de réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, des plateformes. On a parlé il y a quelques années d'Omegle qui a fini par fermer, qui était dans l'anonymat. Snapchat est pas mal la cible quand on parle de sextorsion par le fait que les images, les textos s'effacent, fait que c'est facile pour des sextorqueurs d'avoir des proies, je veux dire, sur cette plateforme-là. Fait que c'est ça, la sextorsion. Puis il y a 10 signalements au moins qui sont faits par jour à cyberaide.ca, qui est comme un point de chute assez reconnu là, pour les gens qui cherchent de l'aide quand leur enfant est pris par la sextorsion ou quand eux-mêmes en vivent, parce que ça touche pas juste les ados en passant. Là. Tu pourrais en vivre demain matin. Là. Fait que voilà. ça ressemble à ça pour vous faire un peu le portrait. Puis ben David, toi, ton histoire a commencé il y a 2 ans. Avant que tu nous racontes, on dirait, tout ce qui touche la sextorsion, j'ai comme envie qu'on fasse le portrait, tu sais, familial, juste de dire, toi, c'était comment la gestion des écrans à maison, l'éducation par rapport aux réseaux sociaux avec ta petite?
Ben dans le fond, c'est ça. Moi, je suis séparé depuis 2017. Donc, la semaine, j'avais la garde une fin de semaine sur deux. Donc, la semaine, ma fille était chez la maman. La maman travaillait de soir. Donc, c'était le demi-frère à ma fille, dans le fond, là, qui était là le soir avec elle. C'est un enfant de 15-16 ans environ là, qui s'occupait de ma fille. En tout cas, c'est un autre dossier, mais c'est ça. Ça a commencé à partir de là. Fait que ma fille, quand elle revenait de l'école, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de routine, il n'y a pas rien. Donc, elle a le champ libre. La première affaire qu'elle fait en arrivant, elle se fait 2 toasts et non un bon souper. Et puis là, c'est ça, elle embarque sur Internet pour passer sa soirée.
Elle passait le temps avec ça. Elle
passait le temps avec ça. Tu sais, il y en a que c'est la télé, elle, c'était la tablette, puis elle passait ses soirées là-dessus, elle jouait à des jeux et tout. Puis dans le fond, ça a commencé, oui, c'est Snapchat, mais ça a commencé avec un jeu que je me souviens plus le nom. C'est un jeu qui joue en réseau là, avec plein de monde. Et puis, ils peuvent se parler là-dedans.
OK, il y a un chat.
Oui, il y a comme un chat. Puis là, avec ça, elle a eu des invitations pour aller sur Snapchat pour parler directement avec ces personnes-là. Mais c'est ça, elle pensait toujours que c'était des personnes de son âge, dans le fond.
Des amis.
Ben, oui. C'est ça.
Fait que là, elle s'est ouvert un compte Snapchat, puis elle a ajouté ces personnes-là.
Elle s'est ouvert un compte. Et puis, nous, dans le fond, c'est ça, la fin de semaine sur deux, on est des personnes plus extérieures. On est dans le bois, on fait plein de trucs comme ça. Fait Internet à la maison, on s'en sert à faire des recherches, des trucs comme ça, mais pas vraiment plus.
C'est pas un style de vie chez vous.
Non, c'est ça. Fait que à la maison, chez moi, elle le faisait pas. Elle avait pas de... Tu sais, oui, elle avait sa tablette, mais on n'était jamais là. Fait qu'elle était jamais dessus. Fait que j'étais pas au courant de tout ça. Mais...
T'étais pas au courant qu'elle avait installé ces plateformes-là dans les réseaux sociaux.
En plein ça, ouais. Fait que ça a parti, dans le fond, avec un coup de téléphone que j'ai eu de l'école qui m'a dit, là, va falloir que vous descendiez directement à l'école parce qu'on a des gros problèmes avec votre fille. Pédophilie, possiblement, avec les réseaux sociaux. Ma fille avait essayé de s'ouvrir le bras. Ouais, fait que là, puis là, je suis comme 1 heure de route, fait que ça a descendu en tabarouette.
Comment tu réagis comme papa à ce moment-là?
Ah, j'ai stressé un peu, ouais. Puis là, j'ai un ami qui est enquêteur à la SQ, fait que en descendant, j'étais vraiment stressé, fait que je l'ai appelé pour savoir, là, je fais quoi avec ça. Fait qu'il dit, gars, il dit, casse pas ta tête, rends-toi à l'école. Il dit, je vais t'envoyer un enquêteur que je connais qui va déjà être sur place, puis il va t'aider là-dedans. Fait que tout a parti d'un coup de téléphone de l'école, dans le fond. Là, c'est ça qui m'a mis au courant de tout ce qui se passait. Là.
Est-ce que tu t'attendais à ça, que ta fille puisse être pognée dans cet enfer-là de la sextorsion? Tu savais qu'elle était sur les réseaux sociaux, comme tous les parents savent que leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Mais quand Audrey me racontait ton histoire, sérieusement, j'ai commencé à freaker en me disant « Hey, je manque-tu quelque chose? Je devrais peut-être plus surveiller mes gars, moi, actuellement. Ouais. » Toi, tu te doutais-tu qu'elle était là-dessus et qu'elle pouvait faire une affaire comme ça?
Non, parce que, voyez-vous, on y avait installé, dans le fond, Facebook pour les kids, dans le fond.
Messenger Kids.
Ouais, fait que chez nous, c'est par ça là, qu'elle communiquait avec ses amis, mais elle n'allait jamais sur d'autres choses. Fait qu'elle avait une tablette chez moi qui était seulement pour ça, puis elle avait une autre tablette chez sa maman que là, vu qu'elle était souvent plus seule, bien, elle faisait plein de choses sur l'autre tablette. Fait que même si je vérifiais la tablette que j'avais chez nous, c'était, il n'y avait rien.
Puis pour mettre en contexte un peu les auditeurs, qu'est-ce qu'elle a vécu sur ces plateformes-là? Parce que là, on va avancer dans le temps. Tu as pu voir les conversations, tu as pu voir ce qu'elle avait vécu. Ça ressemblait à quoi exactement?
Ah, ça a été loin, là. C'était, c'est ça, avec Snapchat, il y a la géolocalisation qu'elle n'avait pas désactivée, elle est encore activée.
Ça, c'est peut-être un bon point pour les parents en passant. Là, c'est activé de base quand tu télécharges Snapchat. Il faut que tu le désactives.
En plein ça. Puis ça a commencé, c'est ça. Fait que là, j'ai réussi à avoir la tablette qu'elle avait chez sa mère pour vérifier. Puis là, je suis tombé sur tous les messages. Puis il y en avait plus que ça. Là, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont été effacés. Il y en a que j'ai vu qui étaient un petit peu moins pertinents, mais c'était quand même...
Elle avait fait des screenshots, finalement. Elle avait encore les conversations pour pouvoir les utiliser.
Oui, elle en avait pris quelques-unes,
Pour vous donner une idée, là, j'ai quelques extraits de ces conversations-là. Puis en passant, si vous avez des enfants en ce moment dans l'auto, peut-être baisser le son. Là, c'est quand même dur pour les oreilles. Là. Plusieurs types de conversations. Il y a des conversations où la personne à l'autre bout de Snapchat lui demande de gémir. Là, on voit que ta fille demande pourquoi. Là, on lui dit « Je te promets, ça va rester entre nous. C'est pour me masturber. Prends une vidéo, joue avec tes pieds. Après, je vais faire tout ce que je veux pour toi. » Donc, sentiment de culpabilité. Après ça, on lui dit que c'est la seule personne qui peut faire ça. Tu parlais de géolocalisation. Il y en a un qui lui a dit « Je sais exactement où ta mère habite. C'est sur telle rue. Ben oui, je l'ai suivi. Soit tu t'écartes pour que je puisse faire ce que j'ai à faire ou tant pis pour ta mère. C'est toi qui choisis. » Donc, beaucoup de menaces comme ça. De ce que je comprends, elle est tombée en amour aussi là, un peu avec un interlocuteur sur Snapchat. Ouais,
elle est tombée en amour aussi avec un. Puis juste pour revenir à celui qui disait qu'il a suivi sa mère, quelques mois avant, ma fille m'avait dit, parce que sa mère restait en village, puis tu sais, dans un village, c'est ça, vous avez la rue, le trottoir, un, deux pieds de gazon, puis la maison est là. Puis ma fille m'avait dit, Colin, je me suis réveillée pendant la nuit, puis elle avait comme juste un voile là, dans sa fenêtre, puis elle dit, j'ai comme vu quelqu'un qui avait comme les mains dans la vitre, qui avait l'air à regarder dans la maison. Mais elle m'avait dit ça avant que je cherche tout ça, dans le fond. Fait qu'après tout ça, je me suis dit, Colin, ça peut-tu être...
Tout ça peut avoir un lien.
Non, c'est ça. Toutes les questions qu'on se pose.
Est-ce qu'on connaît l'âge de ces individus-là qui contactaient ta fille de 11 ans sur Snapchat?
Non, on connaît pas l'âge. Moi, dans le fond, c'est ça. Il y a eu une enquête qui a été faite avec la Sûreté du Québec. Sauf que c'est ça. Souvent, ça, c'est des personnes de l'extérieur. Fait qu'ils peuvent pas faire grand-chose, là. Mais c'est ça. J'ai pas eu d'autres nouvelles. Ça fait 2 ans, l'enquête a été ouverte. J'ai eu plein de questions là, des enquêteurs, mais j'ai pas eu d'autres nouvelles de rien.
Tu sais, quand je regardais les captures d'écran, il y a toutes ces menaces-là, mais il y a aussi on est en amour, on va se suicider ensemble. Tu sais, fait que des incitations à s'enlever la vie. Fait que ça va super loin, tu sais, ce qui peut se faire sur ces plateformes-là. Tu disais qu'au niveau de l'enquête, ces gens-là sont à l'extérieur. Y a-t-il un petit sentiment d'impuissance à ce moment-là?
Oui, il y en a. Il y en a. Puis voyez-vous, pour l'histoire du suicide, là, parce qu'elle a... Oui, c'était superficiel, sa coupure, mais elle a quand même essayé. Là.
Ça compte pour une tentative.
Ça compte pour une tentative. Ce qui nous a aidé un petit peu là, avec l'hôpital, puis rencontrer les pédopsychiatres, parce qu'elle a eu beaucoup de traumatismes avec tout ça. Là. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Là. La DPJ a été dans le dossier aussi. Puis voyez-vous, récemment, on passait ça, ma fille, elle tombe beaucoup en amour. T'sais, c'est une petite jeune adolescente, puis elle aime ça plaire. Puis récemment, c'est arrivé là, au mois de janvier, on y avait prêté la tablette pour qu'elle communique avec son frère pour qu'il se parle. Puis finalement, on a le dos viré 2 secondes, elle est retournée sur Snapchat. Elle tombe en amour avec quelqu'un sur Snapchat. Fait que là, on en a profité. Ma conjointe est exceptionnelle pour ça. Là. Elle s'occupe de ma fille vraiment bien. Puis elle explique vraiment bien les choses. Fait qu'elle s'est assise avec elle. Elle dit, regarde, elle dit, veux-tu qu'on regarde ensemble? Elle dit, je suis pas mal sûr que c'est pas un jeune de ton âge. C'est un adulte. Fait que ma conjointe s'est mise à texter avec l'autre personne au bout. Puis elle y a offert, elle dit, garde, elle dit, si vous voulez jaser ensemble, elle dit, ça me dérange pas, mais elle dit, on va faire un appel vidéo pour pouvoir te rencontrer avant, voir si t'es vraiment un jeune, puis tout ça. Finalement, elle a communiqué vidéo. Il faisait noir dans la pièce. Fait qu'elle a juste entrevu un visage qui n'était pas un jeune du tout. Puis la caméra, elle a coupé tout de suite. Fait qu'après ça, elle a réessayé d'y parler. Il avait tout bloqué. Fait que, tu sais, ça a comme prouvé à ma fille que, regarde, c'est pas un jeune. Là. C'était vraiment un adulte qui est au bout. Fait que je pense qu'à partir de là, ma fille, elle a commencé à réaliser un petit peu là, que...
Après
mais David, ça se dit pas à la radio, mais tu devais avoir des envies de tuer. Là.
J'ai passé par toutes les gammes d'émotions. Là. C'est...
Parce que tu te sens mal par rapport à ce que ta fille a pu vivre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre si ce n'est que de dire à nos enfants d'être plus vigilants?
C'est en plein ça. Puis ça a causé beaucoup de problèmes aussi à ma fille du côté anxiété. Elle s'est mise à faire des crises d'anxiété. Ouais. Des grosses crises de stress. Fait que ça, tout a déboulé là, à partir de là. Là. Elle était vraiment stressée. C'est juste les messages. Tu es une petite fille de 13 ans, tu es toute seule à la maison, puis tu te reçois un message qui te dit que tu sais où est-ce que j'habite, tu sais où tu restes, puis on va... Tu es toute seule à la maison, tu as 13 ans. Là. Moi,
Mais tu te sens, c'est plate à dire, mais tu te. En fait, je vais te poser la question, est-ce que là, envoyer du contenu?
Oui. Dans le fond, ce que je t'ai donné, c'est ce qu'on a réussi à avoir en screenshot, mais avec les enquêteurs, on a réussi à aller chercher un petit peu plus là, on n'a pas de photos, mais en jasant, c'est ça, avec ma fille. Oui, elle a reçu énormément de photos là, de personnes qui envoyaient des photos explicites. Et puis elle aussi en a envoyé deux fois là. Fait qu'elle s'est comme fait embarquer dans l'engrenage, puis c'est ça, suite aux menaces, puis...
Bien, ça fait peur, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'sais, on menace ta mère, t'as 11 ans, t'es toute seule à la maison. C'est comme dur de faire autrement. Là, tantôt, tu nous disais, bon, t'es allée à l'école quand l'école t'a appelé pour te dire qu'il y avait eu blessure au bras, puis qu'on pensait justement qu'elle était sextorquée. À partir de ce moment-là, as-tu de l'aide? Parce qu'on dirait que là, ma pensée est avec nos auditeurs qui peut-être ont un potentiel de vivre la même chose avec leurs adolescents ou ont vécu peut-être une situation comme ça. Bon, toi, tu avais un ami à la SQ, mais mettons qu'on tasse cet ami-là à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers où tu t'es tourné? C'est quoi le processus?
J'ai pas eu beaucoup d'aide. Il a fallu vraiment pousser pour avoir de l'aide. Oui, en partant de l'école, quand j'ai eu le téléphone, ils nous ont dit d'aller directement au CHUL. Il y avait même avisé là, le pédopsychiatre du CHUL qu'on s'en venait. On a rencontré le pédopsychiatre, ils ont jasé, puis, tu sais, oui, on met un petit plan d'intervention en place, là, tu sais, la vigilance, puis, mais à part de ça, il n'y avait rien, là. Ils ont rien fait d'autre, mais suite à ça, ma fille s'est mise à faire beaucoup d'anxiété, mais vraiment beaucoup, là. Assez pour dire qu'une grosse crise qu'elle a faite, elle ne pouvait plus marcher, là. Ses jambes ont arrêté de fonctionner, là. Fait que l'école m'a rappelé pour que j'aille chercher ma fille, parce que l'anxiété fait beaucoup de choses. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été chercher ma fille. Elle n'était plus capable de marcher tellement que l'anxiété était forte.
Comme une dissociation, là.
Ouais, ouais. Puis là, c'est ça. De la dissociation, ça aussi, elle a commencé à en faire. Auparavant, ils appelaient ça personnalité multiple. Maintenant, c'est dissociation. C'est comme un mécanisme de défense, dans le fond, que son corps s'est créé. Et puis là, elle s'est mise à entendre des voix dans sa tête. Fait que là, ça aussi, ça a été un autre gros problème. Parce que là, c'est-tu la schizophrénie? C'est quoi?
C'était-tu là avant? C'est-tu causé par ça?
Ben, ouais. C'est ça. Puis là, un moment donné, elle me dit, là, elle dit, papa, elle dit, pour vrai, elle dit, je suis vraiment tanné d'entendre des voix dans ma tête, là. Elle dit, je suis fatigué. Là. Fait que là, à partir de là, j'ai essayé de repousser encore, rencontrer un psychologue de l'école. L'école m'a vraiment beaucoup aidé. Si ça n'aurait pas été de l'école, j'aurais eu de la misère à avoir tous les services que j'ai eus. Là.
Pour lui
donner un coup de main. La psychologue de l'école, les TES, les travailleurs sociaux, ils ont poussé, là, fait des téléphones pour les CLSC, parce qu'il y a une liste d'attente, CLSC, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'attente. Fait que même si ça presse, tu t'attends. Là. Nous, on a été chanceux, on a comme passé un petit peu par la porte d'en arrière avec les coups de téléphone qu'on a eus. Mais, ça a été loin, là. Ouais.
David, au 418-971-101, par texto, on reçoit des messages pour toi. Louis-Gabriel qui nous écrit, il dit « Salut, j'ai moi-même une fille de 9 ans, puis on a toujours l'impression que ça peut arriver juste aux autres, mais oh mon Dieu, merci pour cette entrevue. » Je pense que c'est important qu'on ait ces discussions-là avec nos enfants. Puis, tu sais, je plaide le premier coupable, là, je n'ai jamais parlé de sextorsion avec mes enfants, puis de comment ça fonctionnait. Je me demande, je ne sais pas si l'école t'en avait parlé ou si ta fille t'en avait parlé, mais est-ce qu'ils commencent à parler de ça à l'école?
Je pense que oui, de plus en plus, parce que voyez-vous, quand c'est arrivé avec ma fille, je sais que la professeure, là, ça date de 2 ans, mais la professeure a fait un speech là-dessus là, dans la classe. Fait que ça a commencé là, un petit peu, ben, en tout cas à l'école où ma fille va, je pense que c'est ça qui a débloqué un petit peu. Là.
Si ça peut être rassurant, je pense qu'avec les nouveaux cours de citoyenneté là, qui commençaient cette année, on aborde beaucoup les réseaux sociaux, les problèmes des réseaux sociaux. Puis je pense que ça venait effectivement dans ce qu'on montre dans le cours. Au niveau policier, on l'a abordé un peu tantôt, mais là vous avez fait des plaintes, j'imagine, ouais. Pour ce qui est de la sextorsion. C'est quoi le suivi de ça? Parce que ces gens-là sont ailleurs qu'ici.
Oui, là, dans le fond, elle a été rencontrée. Moi, j'ai rencontré les enquêteurs pour commencer. On ne voulait pas inclure tout de suite ma fille parce que c'est un gros stress pour elle aussi. Fait qu'ils nous ont amenés. Je me souviens plus du nom, par exemple, mais c'est à Québec. C'est un endroit spécialisé là, pour les enquêteurs qui rencontrent des enfants. C'est super bien fait. C'est pas, il y a des caméras cachées avec des micros cachés. Fait que les enfants n'ont pas l'impression de se faire soutirer. Ouais, c'est ça. Fait que elle a eu ça. Oui, ça lui a causé un autre stress. Là. C'est quand même quelque chose. Puis, mais c'est ça, après ça, l'enquête a débuté, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Là. Puis quand même expliquait, elle, c'est ça, elle, ça arrive souvent que c'est des personnes à l'extérieur du pays. Dans ce temps-là, ils peuvent rien faire.
Mais... Ils
c'est particulier, ça, Audrey, parce
que... Ah, ça me fait paniquer.
C'est la première fois que j'entends des gens me dire, ben moi, j'ai fait, me dire, j'ai fait des plaintes, puis parce que c'était à l'extérieur. On en parlait d'ailleurs avec David Poitras du service de police de la Ville de Québec. Mais à contrario, là, le FBI aux États-Unis, quand ils interceptent des photos d'enfants nus, sont capables de flaguer puis d'envoyer ça à la police de Montréal, police de Québec, pour dire tel individu avec telle adresse IP qui habite à tel endroit a envoyé une photo de jeune fille nue, puis il y aurait comme une vingtaine de dossiers où il y aurait de la pornographie juvénile. Fait que si la police à l'extérieur est capable de le faire, pourquoi notre propre police, la Sûreté du Québec, qui est quand même assez évoluée, serait pas capable de le faire? On a la GRC aussi qui travaille là-dessus.
Je me souviens...
Dans l'Ouest canadien.
J'avais fait un dossier quand on s'était parlé la première fois, David et moi, sur tout ce qui touchait là, bon, la plateforme Omegle, entre autres, Snapchat, puis tout ce qui touchait exactement la sextorsion. Puis il y a un policier avec qui j'avais parlé, qui m'avait mentionné que c'est pas qu'ils font rien. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent, là, vous allez me dire, ça revient aux mains, mais ils ouvrent un dossier. Ils ouvrent un dossier, puis s'il y a d'autres plaintes qui se relient à ce dossier-là, bien, eux autres ramassent l'information jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour pouvoir, par exemple, porter une action concrète. Mais tu sais, on reçoit demain Dany Morissette là, qui est ex à la SQ. Peut-être que ça vaudrait la peine de demander pourquoi nous autres, en tout cas, on a l'impression comme citoyens qu'on n'est pas capable de mener ça nulle part, là.
CyberAide reçoit en moyenne 10 signalements de sextorsion par jour. C'est 79 % des incidents de sextorsion qui se sont produits soit sur Instagram ou encore soit sur Snapchat. Mais comme David le dit, Snapchat est priorisé parce que les messages s'efface. Ça commence souvent sur Instagram. Puis après ça, ben on discute sur Snapchat. Et d'ailleurs, comme Audrey me l'a bien écrit, cyberaide.ca, c'est une belle ressource d'aide pour les gens qui sont victimes de sextorsion et les parents.
Avant qu'on se laisse, David, dis-moi que ta fille va un peu mieux.
Oui, ça va super bien depuis quelques mois. Ben, elle a vraiment été suivie, là, c'est ça. Ça a été dur avant qu'on ait de l'aide, mais un coup que ça a débloqué.
Ça a bien été.
Ah oui, là, suivi à toutes les semaines, ça va
notre
super bien.
Notre système de santé, hein? La première ligne est toujours difficile, après ça, ça se passe bien. David Beaupré, merci d'avoir partagé ton histoire ce matin. Je tiens à te le redire, là, mais je trouve que ça prend beaucoup de courage, puis on le voit par les textos, ça peut aider bien du monde.
Parfait, merci beaucoup à vous autres.
On va avoir cette discussion-là avec nos enfants en fin de semaine. Merci, David.
Merci.
Bye-bye. Gravel, dans le retour, les Pinchot. Ah, Madame Pinchot qui est bien satisfaite. Quand femme est satisfaite, paix il y aura en cette demeure.
Comme si j'étais dur à vivre, tu sais. Mélange pas tes bébelles, toi, là.
Paix il y aura en cette demeure quand dame est satisfaite.
Non, mais je trouve ça tellement important qu'on jase de ces affaires-là, puis je pense que je suis satisfaite pour une raison. Quand on a commencé ce show-là, ça, pour moi, ces histoires-là, ça faisait partie de la vision que j'avais d'être collée sur le monde.
Ben oui.
La majorité de nos auditeurs ont des enfants.
C'est du human interest.
Oui.
Ça touche tout le monde.
Oui.
La maudite sextorsion, ça peut scraper la vie de nos enfants. Puis comme la plupart n'ont jamais parlé de sextorsion avec leurs enfants, ben, ça nous rappelle que faut le faire.
Ça va même plus loin que, parce que ça vient pas toujours de l'extérieur. Hein? Ton petit gars, ta petite fille envoie des photos à sa petite blonde, son petit chum. Là. Je t'annonce qu'à un moment donné, ils vont se séparer, OK? Ben, il y en a que ça arrive qu'après séparation, parce qu'ils sont fâchés, ils utilisent ces images-là qui se sont faites dans l'amour pour s'extorquer. Fait que ça se fait pas toujours de façon innocente sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà été prise là-dedans. J'avais été vraiment conne adolescente. J'avais envoyé des petites photos parce que mon chum en voulait donc bien, puis on s'aimait bien, puis c'était l'homme de ma vie, tu sais. Fait que t'es con
une photo
quand t'es ado.
Toi-même, tout nu à des jeunes hommes.
J'ai déjà. À un jeune homme.
Un jeune homme.
J'ai. Puis écoute.
Fait que tu connais le coupable si ça sort.
Absolument. Puis il y a quelques années, on a eu la discussion parce que j'ai dit, tu sais, j'étais mineure à cette époque-là, puis si jamais tu te sers de ça, là, pornographie juvénile, là, puis je suis arrivée avec mes grands mots, là, puis la justice, tu sais, que j'avais peur
bien
que...
Fait. T'as bien fait
mais,
de l'avertir.
Mais c'est vrai, pareil, c'est une réalité, puis juste parce qu'on parlait de ça, je trouve ça drôle, mais il y a une nouvelle qui vient de sortir, Instagram qui installe plus de balises pour les ados, plus de pouvoir aux parents aussi. Dans les 60 prochains jours, là, Instagram va comme se transformer avec les mises à jour sur vos téléphones, puis ça va être différent pour les jeunes au pays. Donc, toutes sortes d'annonces qui ont été faites par Meta, là, Fait que, tu sais, toutes les affaires de base, là, normalement, il faut que tu aies dans tes paramètres pour mettre ton compte privé, il faut que tu aies dans tes paramètres pour recevoir juste des messages de tes amis sur Instagram. Bien là, ça va tout être des balises qui vont être en place de base. Puis on va aussi mettre le contenu plus sensible de côté. T'sais, ils vont renforcer finalement la sécurité pour les comptes adolescents. Là, si je vous fais ça de façon très générale, là, ça va être plus restrictif. Puis vous allez avoir accès à certaines conversations. Puis fait que, écoute, ça peut peut-être aider. Au moins, il y a des actions qui sont prises.
Il y a ça, mais je ne suis pas satisfait de la réponse des policiers à David concernant le dossier de son enfant. T'sais. C'est même s'il y a eu une communication avec quelqu'un qui est en Europe, il y a une adresse IP qui existe. T'sais.
Totalement.
Puis au même titre que je n'étais pas d'accord quand la police de Québec dit oui, il y a eu une fraude économique, là, il y a quelqu'un qui s'est fait voler son argent, mais là, ça a embarqué ça sur Internet, cet argent-là, puis c'est parti ailleurs, on ne peut pas le retrouver.
J'ai l'impression qu'il y a un manque d'effectifs.
Exact. C'est digital, là, c'est de l'emprunt, c'est de l'argent, c'est numérique, c'est comme des empreintes digitales.
C'est des IP, mais
t'es capable de les retrouver super facilement. Ils doivent avoir tellement de dossiers qu'ils font juste dire. Ah, écoutez, là, ça a été, tu sais, c'est au Burkina Faso, on ne le retrouvera jamais. Là.
Mais je me suis pris une note parce que demain, on va jaser un peu d'un sujet qui touche finalement un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui indirectement, des applications utilisées par les malfaiteurs, les pédophiles. Fait qu'on y posera la question à Danny Morissette, qui est un ex de la SQ, à savoir pourquoi on n'a pas de réponse. Parce que déjà qu'il doit dealer avec le mal-être de sa fille puis son propre mal-être dans tout ça, il n'y a pas de réponse au bout du compte.
Débusquez les salauds! Débusquez les salauds, s'il vous plaît. Audrey,
c'est ta façon de me dire bye, sinon faut s'en aller.
Bye.
C'était pas subtil.
Faut que tu partes.
Hey, ben à demain d'abord.
À demain. Ça va être un plaisir de te retrouver.
Pour
à 10
la heures. Musique, t'sais.
Les trois accords, ouvre tes yeux. Simon sur Boulevard.
Salut.
Salut. Ouvre tes yeux, Simon.